20% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, le praticien RMC saison 4 avec deux fois plus de numéros. La Dream Team est présente deux fois par semaine pour commenter l'actualité des plus grands tournois, des plus grands champions. Notre envie, vous le savez, c'est vous aider aussi à progresser dans votre golf avec nos partenaires U-Golf Blue Green et Callaway. On vous conseille sur la technique, sur le matériel et nous répondons à toutes vos questions. Bon golf et bonne écoute.
Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Vous voulez participer à ce podcast? C'est très simple. Je vous conseille d'aller sur le compte Instagram du Practice RMC pour découvrir des contenus, des conseils. Je vous donne rendez-vous évidemment sur notre compte. Vous pouvez nous laisser des messages, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Dans ce Practice RMC, c'est votre podcast de golf, de référence évidemment. Et nous allons parler aujourd'hui, c'est l'épisode 38. Du troisième majeur de la saison, la victoire incroyable de Gigi Spoon à l'US Open. Un jeu de massacre, ça a été dur, ça a été long. Long à se décider aussi, nous allons débriefer tout ça avec la Dream Team. Aujourd'hui, Ramucho Artola, notre prof de golf et nos éditorialistes RMC, Martin Coulon, Simon Dutin. Salut les amis.
Salut les gars.
Salut JC.
Salut la compagnie.
Hello, hello. Vous avez envie d'aller jouer à Oakmont?
Non.
Non, hein. Si, ça vous a donné envie de jouer au golf?
Ah oui, ah ça oui, de jouer au golf.
Ah oui,
de jouer au Oakmont dans ces conditions-là.
Ah, moi, ça m'a donné juste envie de les regarder, pas du tout d'aller jouer.
Ouais, tout à fait. Je passe
tout à fait d'accord.
On a envie d'aller voir quand même combien on mettrait. 120, 130, 135.
Au bout de 3-4 routes, t'as envie de rentrer à la maison surtout. Mais c'est mon avis. Enfin, c'est mon.
Parce que t'as plus de balles non plus.
C'est vrai qu'il faut prévoir un régiment de balles. On va débriefer évidemment ce 125e US Open de l'histoire. C'était fou, c'était dur, c'était très long.
À 20 mètres. C'est parti.
Elle arrive bien, ça.
Elle arrive très bien. Elle arrive magnifiquement. Elle arrive vers le trou. Et elle va rentrer. Gigi Spoon qui fait le birdie au trou numéro 18 pour remporter l'US Open. On le croyait perdu pour cette US Open. Après un aller où il a encaissé les uppercuts. Et puis le ciel s'est déchaîné. Et lui a retrouvé ses esprits. Un retour d'anthologie pour remporter son premier tournoi majeur à 34 ans.
Le Practice RMC.
Allez, frissons avec les amis de Canal+, évidemment, Adrien Toubiana au commentaire. Le 125e US Open de l'histoire a tourné au jeu de massacre, je le disais. Et à ce jeu, c'est donc Gigi Spoon qui a le mieux aiguisé ses couteaux. L'Américain, 34 ans au palmarès plutôt modeste, a créé la surprise pour remporter le premier majeur de sa carrière. Gigi Spoon a résisté à tout, au parcours tout d'abord, c'est important, à la météo aussi, à ses adversaires. À un début de dernier tour en enfer pour terminer, vous l'avez entendu, en apothéose avec un ultime putt légendaire. La question que j'ai envie de vous poser, tout d'abord, un mot pour décrire cet US Open 2025. Simon Dutin.
Trompeur.
Trompeur. Intéressant. Martin Coulon.
Mental.
Mental. Et pour toi, Ramucho Artola?
En référence à un célèbre film, c'était du brutal.
Brutal. Tu fais référence à quel film?
Les tontons flingueurs, okay. Éventuellement.
C'est bien ce que je pensais.
Connais une polonaise qui en prenait un petit déjeuner.
Voilà.
Simon, pourquoi trompeur? Ça.
Trompeur parce que, parce que si tu regardes le leaderboard, t'as JJ Spoon devant et puis derrière c'est Bob McIntyre, Victor Hovland, Cam Young, Tyrrell Hatton, Carlos Ortiz, bon, Jon Rahm, Scheffler, Burns, Griffin, Henley, Schauffele, Koepka. Tu dis, tu vois, dans 20 ans tu regarderas le leaderboard, tu diras oh là là quelle édition, ils étaient tous là les mecs, hein, franchement on s'est régalé. Et c'est trompeur parce que ces mecs là se sont pas battus les uns contre les autres, ils ont pas joué les uns contre les autres, personne, aucun de ces mecs là n'a battu les autres. Et finalement, bon, on va avoir l'occasion d'y revenir. C'est à celui qui aura fait le moins d'erreurs, qui aura pris le moins de nions dans la tronche par ce parcours, que ça s'est joué. Et je dis trompeur, voilà, parce que le leaderboard ne reflète pas ce qu'on a vu. Sur 4 jours, on n'a pas vu des joueurs qui jouaient les uns contre les autres, qui se mettaient des nions entre eux. Et au final, c'était de la survie, chacun dans son coin. Donc je dis trompeur parce que ce leaderboard est trompeur. Il est magnifique parce que de tous ces noms-là, des 13 noms que j'ai cités, c'est celui qu'on attendait peut-être le moins qui s'est imposé. Et trompeur parce que très souvent, il y a des mecs qui démarrent très fort. Spoon, il met moins 4 au clubhouse le premier jour. On se dit, oh voilà, dans deux jours il est plus là, enfin je veux dire on le verra plus. Et puis voilà, il n'a pas quitté la deuxième place du tournoi et ça a été absolument remarquable. Mais aucun vraiment des autres, on va en parler de ce dernier jour, mais dès les premiers trous du dernier jour, aucun des noms que j'ai cités n'a paru en mesure de l'emporter.
Tu fais bien de rappeler que JJ Spawn était en tête, leader après la première journée en moins 4. C'est d'ailleurs le seul joueur, c'est pour ça que c'est aussi mérité, parce que c'est le seul joueur à avoir joué 18 trous sans encaisser le moindre bogey. Il avait fait 4 birdies le premier tour. Mais c'est vrai qu'après son début de première partie, hier, pour le premier tour, enfin pour le dernier tour, pardonnez-moi, il est à plus 5 en 6 trous. On se dit, JJ Spawn, ça y est, c'est mort. C'est peut-être pour ça que tu vas sur le mental.
C'est clairement pour ça que je vais sur le mental. Alors évidemment, sur le mental de JJ Spawn, au sens premier du terme, puisque c'est ça qu'on va développer, j'imagine, un petit peu plus loin, ce début de partie, et la manière qu'il a eu de réagir à l'interruption de jeu et de le voir avant, après, c'est pas le même joueur. Alors, physiquement parlant, c'est pas le même joueur parce qu'il avait pas le même polo, mais c'était pas le même joueur non plus sur le parcours, dans l'attitude, dans la manière de réagir, et c'est là où je l'ai trouvé fantastique, et mental au sens large du terme, parce que je pense que l'US Open de l'an dernier, il était, pour reprendre l'expression de Simon, il était trompeur, parce que d'habitude, justement, c'est rare qu'un US Open, ce soit un mano à mano entre plusieurs joueurs ou entre deux joueurs, et qu'il y ait une espèce de dogfight.
C'était exceptionnel entre DeChambeau et Rory McIlroy.
Même si c'était, ouais, c'était plus ou moins à distance, mais pas si loin que ça, mais voilà, il y avait et c'est là où tu as des éditions qui sont assez chaudes, enfin, assez mémorables. Et celle de l'an dernier, il était justement pour ça. Mais ça reste avant tout, l'US Open, un test mental de résilience, de dureté, de faut prendre des coups, faut savoir encaisser. On l'a dit dans les éditions, dans les précédents podcasts qu'on a enregistrés au sujet de l'US Open. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'adore ce tournoi, parce que ça sort le meilleur du joueur. Au sens large du terme, c'est pas juste le meilleur joueur sur la semaine. JJ Spawn, tu regardes sa trajectoire depuis presque un an, il en a dans la caboche, hein, parce qu'il y a un an, il arrêtait de jouer, le type. Il se disait, voilà, attends, j'arrive plus à rien, je prends plus de plaisir sur le parcours, j'ai 12 millions en banque, j'ai une victoire sur le PGA Tour, j'ai 33 balais, ça va, j'ai peut-être fait le tour, on va peut-être arrêter là. Et il y a le Players qui passe par là, il perd en playoff contre McIlroy, donc ça, tu... Pareil, il faut l'encaisser.
Il se fait piétiner en play-off. Ah, ouais, oh, il n'a jamais eu une chance.
Il n'y avait pas photo. La balle dans l'eau sur le 17, enfin bon, ça a été dur de se relever de ça. Et pourtant, il fait une très belle saison.
Et je trouve que cette semaine du US Open, c'est un peu la carrière de JJ Spawn, tu vois, condensée en une semaine. Il y a des trucs incroyables. Enfin, je veux dire, le jeudi qui fait, à Oakmont, jeudi, faire 66 sans bogey, c'est incroyable. Et il n'y a pas une erreur. Et en plus, j'entendais des analystes parler de son pré-tour jeudi. Il était hyper stressé. Il se demandait s'il allait y arriver. Il voyait le truc hyper dur se dresser devant lui. Et en fait, on lui dit non, mais gars, ouais, tu te détends, tu joues ton golf, fais du free golf, ça va marcher. Et bizarrement, ça a marché.
On rappelle qu'à l'an dernier, à même époque, il avait raté 10 cuts consécutifs, que c'était extrêmement dur pour lui. Après cette victoire, hier, il a déclaré « Je n'aurais jamais cru me retrouver là avec ce trophée. J'ai puisé au fond de moi pour me remettre de ce qui s'est passé en début de partie. Je n'ai pas vraiment retrouvé mon calme, mais cette interruption m'a fait du bien. C'était mon heure. J'ai fait preuve de résilience dans ma carrière, mais j'ai découvert que récemment, quel golfeur je pouvais être. »
C'est sa 8e saison pro. Il a perdu 2 fois sa carte du PGA. Il a tourné sur le Korn Ferry. C'était pelé. Comme on dit vulgairement, je veux dire, avant de se demander quand même s'il allait arrêter, parce qu'il l'a dit très honnêtement, à cœur ouvert, il dit, moi je me suis demandé si j'avais ma place au milieu de ces mecs-là, et quand tu sais à quel point c'est difficile d'avoir confiance en soi à ce jeu, a fortiori entouré de carnassiers pareils, c'est absolument remarquable.
Je pouvais être évidemment liaison Malta-Propos. Pourquoi brutal, Ramush Vartola ?
Alors brutal, alors finalement, par rapport à ce que j'ai pu dire dans les épisodes précédents, j'ai... plutôt bien apprécié cet US Open. Alors évidemment, en tant que spectateur, en tant que joueur, je pense que j'aurais détesté prendre autant de coups dans la face. Mais effectivement, alors l'US Open, comme l'a dit Martin, c'est très particulier. Il y a Oakmont qui vous invite chez lui, il vous dit bon les gars, voilà, si moi c'est comme ça, ça passe comme ça, et autrement, voilà, vous avez des bunkers, des greens qui sont du carrelage avec des pentes, des roughs qui vont pas du tout vous plaire.
Reçu très bien, mais mal reçu quand
même. Voilà, très mal reçu, très mal reçu, mais comme on l'a dit, ça permet aux joueurs de se surpasser. Et malgré tout, ce qui m'aurait gêné, hein, c'est que ça devienne injuste. Et là, ce n'était pas le cas. Franchement, ce n'était pas le cas. Parce que malgré tout, malgré l'adversité, malgré l'arrêt d'1h40, quand même, qui n'est pas rien, qui peut éventuellement fausser le tournoi, on a quand même vu des shots assez fantastiques. au niveau du petit jeu, on a vu des sorties de bunker, une sortie de bunker de Cameron Young se mettre donné. On a vu un chip lobé de Hatton. On a vu évidemment le coup de drive au 17 de Spawn. Alors, dans cette dramaturgie, dans ce décor, eh ben les gars, encaissait des coups, mais on essayait quand même de faire face. Et ça m'a vraiment, vraiment plu.
Ok, ça t'a plu, mais c'est vrai que cette deuxième partie de tournoi, hier, on ne s'attendait pas du tout à ça. Après l'interruption, on pensait véritablement que ça se jouerait entre Sam Burns et Adam Scott, même si tout était encore possible, on le savait. Mais à ce point-là, non.
Mais c'est toute la beauté, en fait, de l'US Open au sens large du terme, c'est que même si tu fais un début de partie pourri comme ce qu'a fait JJ Spawn, dans n'importe quel tournoi, exactement, tu fais plus 5 après 6, c'est terminé. Mais c'est même pas une question, c'est terminé. Là, tu sais que c'est encore jouable, tu sais qu'il y a encore 9 trous et que c'est les plus compliqués du parcours que tu as devant toi. Et tu sais que c'est pour tout le monde pareil, que l'interruption de jeu, elle a duré 1h40, c'était un peu long, il faut la gérer, que les conditions, il va falloir s'adapter parce que les greens, ils ont complètement changé de vitesse, même s'il y a eu un travail remarquable de l'équipe de greenkeeping, parce que je sais pas si tu as vu la tronche du green du 9, voire même du 14.
Enfin, c'était, 14, ouais.
C'était une piscine, le truc, quoi. Alors évidemment, les parcours sont préparés, blablabla, mais il faut quand même une équipe qui gère le truc. Et s'adapter comme l'ont fait, et comme l'a fait particulièrement bien JJ Spawn, et comme l'ont pas du tout bien fait Sam Burns et Adam Scott, c'est à la fois génial à regarder et un petit poil unfair. Moi, c'est le seul petit reproche que je ferais à ce dernier tour, c'est que l'USGN ne se soit pas dit, il y a un gros machin qui nous arrive dans la tronche vers 15h, 15h30, 16h, pourquoi on fait pas des trisomes du 1 et du 10? Alors, ok, la dramaturgie ça aurait peut-être pas été la même, mais au moins ça aurait peut-être été un poil plus fair, un poil.
Ouais, tu parles de faire, d'équité. JJ Spawn, il a quand même été le meilleur du champ pendant 3 tours avec des conditions sèches et des greens ultra rapides. Ouais. Et puis, il n'a pas été bon sur l'allée du dernier jour, mais après, une fois que les conditions ont changé, il a été le meilleur en conditions sèches, il a été le meilleur de loin en conditions détrempées. Ouais. C'est-à-dire. Personne n'a pu. Enfin, il est quand même le seul joueur qui termine sous le par.
Ouais.
Total, c'est quand même.
Tu regardes ses stats. Pardon, excuse-moi.
Non. L'équité n'est pas remise en question. Hein. Je veux dire, il a été exceptionnellement plus fort que les autres.
Oui, mais tu peux peut-être un peu voir ça. Tu t'appelles Sam Burns, tu prends le coup au 14.
Ah bah le 15. Drop du 15. Hein,
le non-drop du 15, bon, on en reparlera peut-être. Mais...
Bah justement, racontons ça, parce que c'est vrai que JJ Spawn, on a évoqué son début de partie. Il ne faut pas être injuste et ingrat. Fin de partie sensationnelle. Sur les 7 derniers trous, il y a 4 birdies. Il y a un birdie au 17, un birdie au 18. Avant de parler de Sam Burns, il le gagne où, ce tournoi?
Au 17.
Non, c'est le drive du 17.
Oui, dans les faits, oui, clairement. C'est là où il met un point sur la table et il dit la timbale, elle est pour Bibi, quoi, et pour personne d'autre. Et ce coup-là, à ce moment-là, mais alors, ce drive du 17, il est dingue parce que voilà, il se donne une occasion d'eagle, mais la forme du shot est parfaite. Mais moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui du 18, parce que le 18, je sais pas si t'as vu le machin qu'il a devant lui. Il a, au bout du fairway, il a son premier majeur en vue. Il a un fairway qui fait, mais genre, je sais pas, 15 mètres de large, et il te met le petit
drive du 18, il reprend le,
il stinger, bam, il te reprend le tee au bout de, mais il sait qu'il est là, et il sait qu'il est dans son élément, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que mentalement le gars il s'est remis complètement dedans, quoi. Il s'est remotivé, je sais pas comment dire, il a reseté. Moi c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce US Open, c'est voir à quel point un joueur comme ça peut passer du tout pourri, avec des coups de pas de chatte, pour paraphraser un certain Benoît Paire, de l'espace intersidéral, parce que il touche le drapeau aux deux.
Il est résilient, enfin, c'est ça. Et surtout, il n'a pas un mouvement d'humeur.
Et ouais.
On l'a pas vu parler. Il y a un mec comme Hatton qu'on connaît bien, qu'on adore aussi pour ça. Je veux dire, qui commande tous ses shots, quel que soit le tournoi, chaque semaine. Et hier, Spawn, effet, après ce qui lui arrive aux deux, on peut raconter, il touche le mât, ça peut, si all out, ça fait,
ressort eagle,
la balle ressort à 45 mètres du grid, il sort avec un bogey. Normalement, tu rentres à la maison, tu casses les clubs,
mais
ça a continué. En plus, ouais, ça a continué, la malchance a continué, parce qu'il jouait bien, il a été puni par un parcours qui, déjà, lorsque tu joues bien, peut être unfair, et là je te rejoins. Mais là, par rapport au shot qu'il a tiré, tu te dis, c'est pas possible.
Il prend un râteau au 4, je crois. Plutôt correct, il prend un râteau qu'il met dans un lie dégueulasse sur le par 5. Donc, comptablement, il n'y a pas d'effet, puisqu'il fait que le par. Enfin, il fait le par. Mais pareil, tu te dis, mais tout golfeur normalement constitué à ce moment-là, pro ou encore plus amateur à notre niveau, clairement, tu pètes un câble à ce moment-là. Enfin, tu te dis, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et lui, il appuie sur le bouton reset, et les 9 derniers, c'est un autre bonhomme.
Et il te fait un truc incroyable. Il y a une stat qui a circulé, c'est qu'avec un départ pareil, sur les 6 premiers trous, un départ kata, il avait 1,4%
de chance
de remporter la victoire. Non, mais c'est hallucinant. Et si on revient sur ce pas du 18, bon, il est mythique, on le reverra encore des années et des années avec grand plaisir, mais j'ai l'impression qu'il c'est un pied de nez, c'est vachement ironique, c'est un pied de nez à tous les 3 putts qui ont été pris pendant 4 jours. Et comme si finalement, et en plus il finit moins 1, comme si il allait dire à Hockman, bon, Hockman, finalement, ben, c'est quand même un joueur qui a pris le dessus. Tu vois, comme si...
Un seul joueur.
C'est vachement symbolique pour ce putt au 18. C'est
vrai que c'est symbolique parce qu'on a déjà vu évidemment des ficelles pour remporter des tournois dans l'histoire du golf de 10, de 15, de 20 mètres. Mais là, dans ce genre de tournoi, on a l'impression que ce putt, il va rester dans la légende.
Ben, parce qu'en fait... Finalement, le putt, alors on peut rajouter le drive du 17, mais je veux dire, on cherche toujours le shot qui va rester dans la mémoire, dans les archives pour la télé américaine, qu'on va remontrer pour justement symboliser, illustrer la victoire de tel joueur. On se souvient de Rory au Masters. Souvent, parfois, t'as quand même le choix. Il y en a, et puis en fonction du moment de la partie. Si tu prends les 4 jours de tournoi, alors ok, il y a eu des shots extraordinaires, il y a Patrick Reed qui fait Albatros, il y a Victor qui fait trou en un, d'accord. Mais je veux dire, ce n'est pas des shots qui ont été décisifs pour le résultat final. Ce putt du 18, c'est finalement la seule baffe qu'un joueur a mis au parcours en 4 jours, parmi ceux qui ont joué la victoire. C'est le seul coup qui a donné l'avantage à un joueur par rapport à ce parcours. Tous les autres, c'est des erreurs. Tous les autres, c'est des mecs qui ont regardé leur pompe après leur shot, qui se sont dit, eh ben voilà, et merde, et voilà, et je savais qu'il fallait pas la jouer comme ça, ou alors j'aurais dû la jouer plutôt comme ça. C'est le seul shot, finalement, où les joueurs, ou un joueur, et à force le vainqueur, a pris l'avantage, a dit à ce parcours, ben tu vois, cette fois-ci, c'est moi qui t'ai battu.
Ok, donc on comprend évidemment et on retiendra ce putt, on retiendra le drive du 17, ou en tout cas cette deuxième partie de dernier tour qui a été exceptionnelle pour Spaud, mais là où ont perdu nos amis qui étaient en tête, évidemment, Sam Burns et Adam Scott, ça s'est passé où ? Sam Burns, c'est le drop qu'il ne demande pas à un moment donné du parcours.
Il démarre le retour. Il le demande. Il y a deux arbitres qui viennent.
Il démarre très mal le retour également. Hein. Il démarre par un double, un bogey derrière. Donc, il démarre très mal le retour. Mais au 15, ben, il y a un fait de jeu. C'est inadmissible qu'on ne lui ait pas accordé un free drop. Parce que ça balle quand même. Alors les arbitres ont dit que son stance, effectivement, n'était pas sur une zone humide, mais la balle, on le voyait faire des coups d'essai, il y avait une gerbe d'eau qui sortait du sol. Il a demandé un deuxième avis et on ne lui a toujours pas accordé un free drop. Et donc il a été, je trouve, beaucoup trop tendre, beaucoup trop gentil.
Il le dit, juste derrière, en plus, tu sens qu'il est déjà plus dedans, qu'il est agacé. Après, il tape son mauvais bien coup, ça, qui se fout dans le ref et il se tourne immédiatement vers son caddie. It's ridiculous. Franchement, c'est du foutage de gueule.
Son caddie peut-être aussi.
Il est beaucoup trop tendre. Ça veut dire qu'un autre joueur que lui, un joueur un peu plus coté, on va parler d'un Rahm, d'un Scheffler, d'un Rory McIlroy, ça, on lui donne un drop.
Mais c'est même pas une histoire qu'on lui donne le drop. Dans les faits, les arbitres, il y en a deux qui sont arrivés. Donc c'est des arbitres de l'USG, c'est pas des gogoles. Ils connaissent la règle. La règle, c'est il faut que ton stance, quand tu prends ton stance, il faut que de l'eau sorte du fairway, de l'endroit où tu vas jouer. Le problème, c'est que le fairway, il était en pente et que le point le plus bas de la pente, bah, c'était là où il y avait sa balle et c'était une cuvette et c'était gorgé de flotte. Et sauf que lui, 1m20 ou un petit mètre
sous ses chaussures, il y a pas d'eau.
Donc les arbitres appliquent la règle. Ils disent, bah désolé, il n'y a pas de flotte. Alors c'est là où lui, il a été trop tendre, parce que là, il arrive avec son doigt et il appuie sur la zone à côté de sa balle et il dit les gars, pardon, enfin moi je vais pas jouer dans l'eau là, il y a un moment, c'est un peu ridicule quoi. T'es en dernière partie de l'US Open et c'est là où je pense justement, comme tu le dis très justement Ramucho, il avait déjà un peu perdu le fil. Il avait déjà perdu le fil parce que ça manquait de lucidité, c'était un peu très friable quoi. Et à ce moment-là, se faire manger par une décision arbitrale comme ça, qui est juste, puisqu'ils ne font qu'appliquer la règle. Mais il y a un moment, il y a la règle et l'esprit de la règle. Et c'est clair qu'à ce moment-là, c'est là où je reviens sur cette notion de est-ce que c'était vraiment fair de faire jouer les joueurs dans ces conditions-là, alors qu'on savait qu'il y avait une potentialité d'un gros orage. Et donc, on pouvait gérer via des trisomes avec des départs alternés du 1 du 10 plutôt pour finir dans des conditions à peu près normales. Bon, voilà, t'aurais évité ce genre de fait de jeu-là. Mais le tournoi, il avait déjà un brin lâché quelques trous plus tôt. Ouais. Donc ça, c'était la cerise sur le mauvais gâteau, la cerise pourrie sur le mauvais gâteau pourri. Quoi.
Ah, il vient de faire double au 11, il fait dégueulasse au 12 avec un coup de wedge qu'il a réussi pendant 4 jours. Ouais. Il se fout dans le rough, donc mentalement, je pense qu'il n'y est plus trop en effet. Je suis d'accord avec vous, parce qu'au 13... Il fait un lob shot, mais de maboule pour
qu'il était dans le
rassembler. Enfin, c'est ahurissant. Et donc, en fait, c'est évidemment que c'est déjà les montagnes russes. Tu sais que son jeu est beaucoup moins stable qu'il y a quelques heures.
Et le petit protégé de Martin Coulon, Adam Scott, tu rêvais de le voir remporter son deuxième majeur. On rappelle que
tout le monde,
le dernier, enfin son premier, mais donc son dernier majeur remporté, c'était au Masters en 2013. En 2013, il y a 12 ans. Tu avais envie de le voir soulever la timbale et malheureusement, sa fin de partie, à partir du 11, là, c'est cata.
Bah, ouais, je suis un peu hyper déçu parce que moi, pour moi, c'est des joueurs de la trempe de exactement ce qu'a fait Justin Rose au Masters. C'est des gars qui ont mon âge, donc déjà, ça me parle beaucoup. C'est des gars que je regarde depuis que je suis tout petit, que je vois swinguer un fantastique depuis que je suis tout petit. Donc, voir Adam Scott à 44 balais, gérer stratégiquement hyper bien son truc avec son mini driver là qui fait des espèces de petits stingers magnifiques qui chope tous les fairways depuis trois tours. Donc voilà, tu sens que c'est un peu compliqué au début, il y a un peu de tension, il y a un peu voilà, le jeu est un peu moins là, mais il est là après 9 trous. Moi la grosse erreur que je le vois faire c'est ce coup de wedge au 14, je ne comprends pas qu'on fasse un full coup de wedge dans des conditions humides comme ça. À 100 mètres du trou. Enfin, je parle d'un joueur qui a un majeur qui est une rosta absolue, mais d'un point de vue spectateur, je le vois faire un full swing avec un coup de wedge dans des conditions humides et qui part à 20 mètres plus loin, il se fout pendu, il sauve un bogey, tu sais même pas comment. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Donc comment on peut l'expliquer? Ça, le coach, là, Ramucho, comment on peut l'expliquer, ça?
Il y a certainement aussi la fatigue mentale, parce que c'était très long également. Il est plutôt jeune, je n'ai pas voulu faire l'affront, parce que ça, c'est surtout un joueur expérimenté. Mais je pense que il a dû voir que devant, il y avait encore du rough, une cuvette, et qu'il a fallu absolument porter cette balle. Voilà, il a pris cette option, mais il s'est un peu trompé, voilà, malheureusement, et au mauvais moment de la partie.
Ouais, mais ça, c'est là où je comprends pas, parce que pour moi, il avait une espèce de lucidité, justement, toute faite d'expérience de jeu, tu vois, dans les jeux précédents. Il s'est pas adapté à ces conditions.
Il avait pas d'espace avant le green pour faire une balle à mi-hauteur et la poser, faire rouler.
Tu peux jouer une zone à gauche, tu peux marger un peu à gauche.
Aussi,
à ce moment-là, tu sens que c'est un peu tendu.
Il avait un petit club.
Ouais.
Bon, il se pose pas la question, tu vois, si t'es un peu dans la brume, il se pose la question de jouer à gauche. Et moi, quand j'ai ça à jouer, je joue à target. Voilà, et effectivement, ça ne correspondait pas ni à son état de forme là, au moment M, ni un quatrième tour dans ces conditions, sur ce parcours, etc. Voilà.
Non, mais après, les gars, moi, j'entends l'erreur et tout. Bon, c'est Adam Scott, hein, Martin l'a rappelé, il a 44 ans, c'est son 96e majeur d'affilée depuis 2001. Il n'en a pas raté un. Enfin, on parle d'un des meilleurs joueurs de ces 25 dernières années. Il a aussi le droit de se dire, c'est maintenant, je vais la planter au drapeau et on va terminer cette histoire. Je veux dire, tu peux aussi avoir confiance en toi, te dire, en effet, c'est humide, la balle, elle va moins voler, il faut que j'en mette un petit peu, il y a l'adrénaline. En effet, il en met trop, mais bon, je veux dire, c'est pas une erreur de débutant. Je veux dire,
bas, ça freine vachement. C'est super humide.
À ce moment-là, loin de moi, avec toute proportion gardée et tout respect que je dois à tous ces joueurs-là, machin, bidule, si c'est une erreur de débutant. Faire un full swing à 200 000 à l'heure à ce moment-là, alors que t'es dans le mix, mais t'es dans le mauvais côté.
Non, mais qui met pas ce qu'il faut dans le shot, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ah, mais c'est la forme. C'est la forme avant déjà. Il y avait pas mal de shots comme ça qui étaient un peu surjoués, un peu. Tu sentais que ça voulait trop. Alors que les jours précédents, c'était un pur stratège. C'était un pur joueur d'échecs comme.
Je pense qu'il veut la poser et qu'il se dit la faire tomber 15 mètres avant, si elle roule pas, je reste court et je pense que.
J'étais très étonné de le voir jouer ce shot-là à ce moment-là, dans ces conditions-là. Enfin bref, j'étais hyper déçu. Voilà, un peu déçu aussi parce que c'est un joueur que j'adore. Donc.
On va balancer quelques golfeurs dans quelques instants, que ce soit positif ou négatif. Mais là, sur quelle sensation vous avez envie de rester à propos de cette US Open 2025? On a rappelé qu'en 2024, on a vécu une lutte absolument exceptionnelle entre Bryson DeChambeau et Rory McIlroy. Là, c'était vraiment diamétralement différent, cette partie. Quel coup, quelle une image qui va vous rester en tête de cet US Open.
Les joueurs ont extrêmement souffert pendant 4 jours, mais pas un seul n'a lâché, parce que ce serait très facile de lâcher en se disant bon, c'est pas ma semaine, tournoi suivant, aujourd'hui c'est une semaine particulière. Bon, il y en a peut-être un ou deux, genre Sean, Laurie et Rose, qui, bon, voilà, ont vite lâché prise. On peut pas les blâmer. Mais la majorité, et d'autant plus sur le dernier tour avec ces conditions, ben là, je retire mon chapeau, ils n'ont pas lâché la rampe. Pas un. Donc ça, c'est admirable.
Moi, c'est la forme du vainqueur, en fait. C'est le type de joueur qui a gagné. C'est la mentalité qu'il a fallu développer pour gagner ce tournoi. Et moi, c'est pour ça toujours que j'ai adoré ce tournoi, que j'adore suivre l'US Open, parce que un vainqueur du US Open, c'est ça. C'est un gars qui est résilient et qui lâche rien jusqu'au bout. Pour moi, c'est la substantifique moelle du golf, en fait. Parce que tu te bats contre un parcours qui est d'une violence dingue, qui fait tout pour te faire péter un câble. Tout. Et il y arrive, hein. Là, tu regardes la grande majorité des joueurs, ils ont tous pété des câbles.
Ah oui.
J'ai vu des clubs voler, on en parlera sûrement un peu plus loin, mais des figures artistiques avec des clubs qui rebondissent sur des sacs et qui te reviennent dans la main. Bon, ouais, bref.
Évidemment, tu parles de Rory McIlroy, mais on va en parler dans quelques instants.
Voilà, mais c'est ça, moi, que j'aime bien. C'est cette bagarre contre soi-même, contre un parcours, contre des conditions. C'est du pur golf, quoi. Pur golf.
Oui, bah, je rejoins les copains. Moi, je retiens les mecs qui regardent leur pompe après un coup, quoi, en essuyant leur club, qui souffle, qui fuit le regard de leur caddie, qui fuit le regard des spectateurs. Et voilà, ça te ramène, nous, pimpin du dimanche, à ce qui fait qu'on s'accroche de temps en temps, à ce qui fait que parfois on a envie d'arrêter, qu'on se dit que c'est inutile. Et voilà, moi, j'avais écouté vos débats en amont du tournoi, et j'ai, en effet, j'étais pas tout à fait d'accord avec Ramounj, parce que ouais, ça fait du... Non, alors peut-être que c'est le joueur amateur frustré qui parle, mais ça fait du bien de voir ces mecs-là être ramenés à ce qui fait l'essence de ce jeu, quoi. T'essayes, t'as beau t'appliquer, t'as beau mettre ce que tu penses devoir mettre dans le shot, et tu tapes un shot pourri, quoi. Voilà, et tu dois retaper un shot pourri parce que tu t'es mis encore pire que là où t'étais. Et malgré tout, bah, tu reviens le lendemain et tu continues. Donc et ouais, ça fait du bien de voir ces superstars dans ces situations, et c'est ça les images que...
Et je me posais une question, il y a la semaine prochaine un event.
Un signature,
je vais y arriver. Un signature event. Donc ils vont se retrouver tous là-bas. Et je me demande dans quel état ils vont se retrouver. Je ne sais pas s'ils ont encore de la batterie, mais là, il va falloir passer ces 2 jours là, recharger tout ça, parce que.
Ça va leur faire du bien déjà de faire quelques birdies. Voilà.
Oui.
Et d'arrêter de faire des doubles et des triples. Juste, JJ Spawn, il peut devenir un joueur majeur du champ. Il est 25e mondial, hein, c'est pas non plus, il n'est pas non plus au fin fond de la cave, mais il remporte son premier majeur. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il a quelque chose pour en mettre un deuxième, un troisième, peut-être un quatrième, ou non, ça paraît quand même compliqué.
Et pourquoi pas ? Maintenant qu'il a trouvé la recette, et maintenant qu'il s'est prouvé, même à son âge avancé, c'est pas un âge avancé, 33 ans, 34 ans, pardon, mais à cet état de sa carrière, enfin à ce moment de sa carrière, c'est pile le bon moment, au contraire, ouais. Ou celui-là, t'as trouvé une recette qui est intéressante, une recette de résilience.
Mais dans un tournoi particulier, quand même. Enfin, je veux dire, une recette, ok.
Oui, mais... enfin, on rappelait, il est quand même en play-off aux Players avec Rory, donc il commence à s'habituer, à nettoyer ses mecs,
trouver énormément de choses.
Deuxième au Cognizant. Et surtout, c'est pas le météorite qui sort de la fac, qui vient, qui arrive, qui rince tout le monde. Lui, ça fait 8 ans, encore une fois, il se l'est pelé. Il a eu le temps de se demander s'il avait vraiment sa place. Et au bout de 8 ans, tu trouves enfin la clé. Il avait jamais fait mieux que 35e en majeur. Cette fois-ci, il plante. Depuis les 6 derniers mois, c'est le 12e meilleur joueur de fer au monde. Pareil au putting. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui a trouvé des clés après une certaine maturation, tout de même. Donc, si ça te donne pas espoir, si tu te dis pas, bon, bah, les choses sont enfin sur les rails et je fais les choses comme il faut, je pense que ça doit lui donner énormément de confiance et qu'on va le revoir, ouais.
C'est admirable et sa joie, évidemment, ça fait toujours, ça donne des frissons quand on voit sa réaction sur ce pote. On est très, très heureux pour lui. Et quand on a vu sa déception, on l'avait commenté, hein, lors du Players en mars dernier, bah, c'est vrai que ça nous réchauffe un petit peu le cœur, parce que c'est un joueur qu'on avait envie de voir remporter un majeur.
Oui, juste pour finir, c'est juste plus, surtout pas un imposteur qui a profité d'une porte entrebâillée.
Ok, c'est important.
C'est surtout pas. Comme on a pu connaître sur certains tournois, même l'US, de mecs qui étaient là, hop, hop, ça s'est bien goupillé, etc. Et du coup, ils finissent devant. Mais c'est en aucun cas le cas de.
Il n'a pas bougé, il n'a pas fait. Il n'a pas été moins bien classé que deuxième.
Non, il a toujours été en haut. Tours,
donc c'est quand même.
Allez, c'est l'heure de balancer, les amis.
Le practice RMC.
Courrête ! Balance, balance !
Mais tu n'emporteras pas dans le trou !
Ça y est, il l'a acheté !
Allez !
Il l'a acheté !
Balance ton golfeur.
Que ce soit positif ou négatif, il faut balancer un golfeur. Je veux un nom et une explication, évidemment. Tout d'abord, un nom. Simon Dutin.
Shane Lowry.
Shane Lowry.
Rory McIlroy,
ok, on n'a pas fini d'en parler. Arnaud Chortola.
Victor Pérez.
Vous savez quoi ? On va commencer par le côté positif, avec Victor Pérez qui a terminé 19e. Il a été dans la course sans l'être réellement, c'est pour ça qu'on peut peut-être être un petit peu déçu, mais une semaine tout de même formidable pour notre Français, un top 20. Il termine avec plus 7 total. Pourquoi Victor Pérez donc ?
Déjà top 20 sur un majeur, c'est pas neutre, alors qu'il était également dans le top 10. Il a pris 12 fairways sur 18 au dernier tour dans ces conditions, 75% de green en régule, donc ça c'est quand même colossal. Non, mais outre son niveau de jeu qui évolue constamment avec des étapes qu'il franchit étape par étape, semaine par semaine, c'est fantastique au niveau du jeu. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est lors de son interview, je trouve qu'il a de plus en plus de lucidité, de recul sur le jeu. Il s'épaissit de ce côté-là. Il nous a dit que, en fin de compte, ce genre de parcours, plus la météo, plus la volonté de vouloir gagner des points, c'était un gros piège. Et lui, il s'est réfugié derrière ses process, derrière sa routine. Il n'a jamais. Il n'est jamais tombé dans le piège de savoir que, bon, allez, j'ai fait un bogey, je veux absolument de suite gagner ce point par un birdie. Parce que là, effectivement, dans ces conditions.
Il a conservé le plan.
Il a conservé son plan de jeu comme le faisait, comme le font les plus grands, comme le faisait le tigre lorsqu'il était en chauffe ou lorsqu'il était malmené par le parcours. Tu conserves ton plan de jeu et ça, c'est une force incroyable et ça dénote une maturité qui fait que là, encore une fois, il a franchi un cap. Donc, c'est remarquable comme attitude. Et. C'est tout sauf simple, hein. C'est tout ça simple d'accepter, malgré la situation, de respecter son plan de jeu.
Bravo Victor Pérez, et tu parles des Français. Sachez que vendredi, dans le prochain numéro, on va accueillir Frédéric Lacroix qui disputait son premier US Open et il viendra nous raconter justement ce tournoi absolument dantesque. Rory McIlroy. Alors avant de t'écouter, Martin Coulon, Rory McIlroy a retrouvé les médias. Ce qui est plutôt rare ces derniers temps, il ne donnait plus aucune interview, même avant le début d'un grand tournoi. Oui. Et au bout de trois tours, Rory McIlroy a pris la parole. Lui qui a signé un tout de même magnifique moins 3 pour son dernier tour. Il termine à plus 7, 19e, comme Victor Pérez. Rory McIlroy.
I've driven the ball better. I've driven the ball as good as I have in a long time. So, that's
j'ai déjà mieux joué. J'ai déjà mieux tapé la balle. C'est au moins ça de positif ce week-end. J'espérais jouer mieux, mais je ne l'ai pas fait. C'est plus de la frustration avec vous, les gars. J'ai été totalement disponible ces dernières années. Bref, je ne parle pas vraiment de vous particulièrement, mais d'un tout.
The whole thing.
Ce moment avec mon driver fait partie de tout ça, mais ce n'est pas comme si je vous avais évité comme Augusta. Ce n'est pas extraordinaire, je l'ai déjà fait auparavant. Je l'ai juste fait un peu plus souvent ces derniers temps. Je pense que j'ai acquis le droit de faire ce que je veux.
Voilà pour la réaction de Rory McIlroy. C'est assez fou ce qu'il dit, hein, parce qu'il vient de remporter le Masters. Rory, il y a quelques semaines, c'est-à-dire c'est le dieu du golf. Et puis on sent que doucement, ça glisse. Jusqu'où ? Est-ce qu'il a encore envie de jouer au golf ? Les médias se posent des questions. Et lui, on sent qu'il n'a plus du tout envie de répondre à la presse. C'est étonnant quand même. Hein.
Ouais, c'est agaçant même. C'est agaçant parce que c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on en attend beaucoup de ce bonhomme-là. Parce qu'il en donne beaucoup, parce qu'il en a donné beaucoup en début d'année, dans les résultats, dans ses interventions. Et là, de le voir se renfermer sur lui-même, en mode « Ouais, c'est votre faute les médias, vous êtes relou avec mon driver, machin, bidule. » Mais t'as pas besoin de ça, gars. On joue à quoi, là ? Ok, il a été un peu plus ouvert, un peu plus lucide, je trouve, en fin de semaine, en disant, voilà, bon, les gars, moi, j'ai quand même gravi l'Everest, là, mon Everest à moi, il ne l'a pas caché, l'oxygène, il était rare là-haut, je redescends, je décompresse, c'est compliqué de retrouver une vraie motivation, il ne s'en cache pas. Ça, je trouve ça toujours très intéressant et toujours rafraîchissant chez lui. Par contre, la réponse sur le parcours, là, moi, j'ai plus de problème avec le driver. Hein. Tu regardes ses statistiques au niveau du driving. Il est à plus 1,55 sur toute la semaine en stroke gain of the tee. Il est driving distance, il est premier avec 330 de moyenne. Le driver, c'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est ce qu'il y a entre les deux oreilles. Hein. Parce que l'attitude qu'il a eue, et en particulier le troisième jour, a jeté des clubs dans tous les sens, mais en mode, mais sale gosse, quoi. Là, je prends le parti de Fabien, donner un club, machin, mais il en jette un, il en jette deux, il en a même jeté un de manière freestylesque, magnifiquement sur son sac, il lui est revenu dans la main, c'était très joli, bravo.
Magnifique trick shot.
Trick shot de dingue, mais j'ai pas envie de
voir ça. Il est pas à la hauteur de son statut,
non,
là.
Non, je suis pas d'accord.
C'est pas l'histoire d'être à la hauteur de son statut, il a pas besoin de prouver qu'il est à la hauteur de son statut, et c'est là où j'entends ce qu'il dit en mode, les gars, moi, j'ai rien à prouver, si j'ai pas envie de parler, je parle pas.
Mais ok, human after all is one of us. Traduis-le comme tu veux.
Bien sûr, mais c'est ça qu'on apprécie chez lui.
Justement, enfin, quoi, ils font l'armure, mets-toi à sa place, tout ce qu'il a, ce qu'il a accumulé. Et évidemment que Fabien serait pas capable d'entendre ce que je suis en train de dire, mais. Évidemment que c'est normal que la cocotte minute, au bout d'un moment, le couvercle, il ait envie de sauter. T'en peux plus, mais foutez-moi la paix. Ok, mon driver, il était pas conforme, mais lâchez-moi, les gars.
Simon,
moi, j'ai trouvé
Simon,
ça cool parce que tu sens qu'il tire le frein à main. Il dit, ouais, c'est avec you guys que j'ai un problème. C'est vous qui me, voilà, c'est vous qui me saoulez. Tu l'as dit. Je descends de l'Everest. Bon, ben voilà, le temps de redescendre, il faut que j'en trouve un qui m'intéresse à escalader. Il l'a dit, Port Rush, ça, c'est un bel objectif. Je sais pas, moi, il a peut-être trop jeté les clubs, mais bon, c'est qui ne le fait pas. Je veux dire, c'est la frustration. Il a pas si mal joué que ça.
Mais c'est
il a
ça,
pas
le
si mal. C'est ça. Il a pas si mal joué que ça. Simon, mais il est puni par ce parcours.
T'as vu ses stats en US Open? T'as vu ses stats sur les peut-être 6 ou 8 derniers US Open? Le gars, il a que des top 5. C'est un truc de ma boule. Oui. Le gars, il sait gagner un US Open. Il en a gagné un en 2011. Il sait jouer les US Open. C'est un gars qui connaît la recette, et donc la recette de résilience qu'il faut. Il est pas loin, hein. Il est 19e.
Ouais,
il est
regarde le dernier jour.
À plus 7. C'est pas si loin que ça. Tu restes un peu dans le tournoi. T'arrêtes de te jeter des clubs et de machin, j'y arrive pas, je me flagelle.
Oui, bah regarde, le dernier tour, il pose moins 3. Il y en a pas beaucoup qui ont joué moins 3 hier. Alors, ok,
il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Ok, alors il joue fantastique au golf, mais c'est toujours pareil avec Rory. Quand tout va bien, c'est génial, mais quand il faut s'agripper, c'est ça le problème avec lui. Et c'est ça que je commence à bien comprendre, c'est que son jeu exceptionnel, il est au-dessus de tout le monde. De tous les jours, mais son jeu moyen, dès que c'est un peu compliqué.
Il s'accroche le dimanche, bien sûr.
Concernant ce driver, ce fameux driver non conforme, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a uniquement le nom de Rory qui est sorti? Je comprends que ce soit Furax après les médias. Il n'y a que son nom qui est sorti. Ah, Scottie Scheffler, quelques jours après. Et on apprend après qu'il y avait 20 joueurs qui étaient concernés. Moi, je comprends qu'il soit Furax. Je comprends que son nom soit mis en pâture. Pourquoi? Parce que c'est Rory McIlroy. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi son nom est sorti dans les médias? Voilà, donc effectivement, vous me prenez comme ça. Moi, je prends du recul avec vous. Je comprends tout à fait son attitude. Et puis, dans les conférences de presse, c'est vastement rafraîchissant. Ça me fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir qu'il s'étale sur ses états d'âme. Ben oui, qu'il s'étale sur sa contre-performance, sur son manque d'envergure.
Tu as raison,
ça change un peu, excuse-moi, de la platitude de beaucoup de joueurs, là, qui énoncent des banalités pour être, propre avec les médias.
Mais je suis milliards % d'accord avec vous, les gars. C'est ça qui est toujours rafraîchissant avec lui. Moi, ce qui m'en... c'est son attitude sur le parcours, parce que
prouve qu'il avait envie. Dieu sait, c'est pas défendable, mais ça prouve au moins qu'il avait envie et que ça le fait suer.
Tu trouves qu'il a envie en pétant une boule de départ?
Oui, ça le fait suer de lâcher un coup à gauche, ou d'où ça le fait suer de lâcher son coup à droite au 17.
Statistiquement,
je préfère à la limite. J'oublie évidemment qu'il n'a pas à faire ce qu'il a fait au niveau de la boxe, au niveau du lancer de club. Mais je préfère cette attitude à la limite. Attention à ce que je dis. À celle du PJ où il a traîné sa misère pendant les deux derniers tours.
Okay.
Tu vois, il était là parce qu'il fallait faire le job, parce qu'il fallait terminer, etc. Mais bien sûr que c'est répréhensible. Mais je préfère quand même qu'il ait cette grinta, même s'il ne doit pas se manifester comme ça.
Ça nous fait toujours débattre, évidemment, Rory McIlroy, et on en parlera, à n'en pas douter, dans un autre épisode, avec notamment Fabien Denoyant, qui aura beaucoup de choses à nous dire. Rapidement, pourquoi Sean Lowry, Simon ?
Parce que j'en attendais beaucoup, parce qu'avec votre règle stupide des pronostics, avec laquelle on ne peut pas donner quelqu'un qui a déjà été donné, j'ai failli vous le donner. Le flair, là, tu vois, m'a permis de jouer Sepp Straka, tu vois, comme quoi ça pue le golf. Bon, Sean Lowry, il est cuté à plus 17. Je pense que, voilà, je me disais que c'était peut-être un parcours qui pouvait lui convenir. Il y a quasiment 10 ans, lorsque l'US était joué, il avait fini deuxième ex aequo. Ouais. Il était leader après 3 tours. Et il sort à plus 17. Et le deuxième jour, sur le 14, il ramasse sa balle sans la marquer sur le green. Genre, la machine s'est débranchée, plus de courant, quoi. Et voilà, pour un mec qui justement reste assez flegmatique de temps en temps, arrive à garder le sourire même quand il rate un shot et tout, voilà, ça dit quelque chose. C'est pas du tout pour le clouer au pilori, parce que je l'adore toujours, mais c'est, voilà, c'est, ça dit quelque chose de à quel point c'est vraiment une lessiveuse, ce parcours d'Oakmont, et à quel point voilà, tous les mecs que tu penses pouvoir le dompter, sont, aucun de ces gars-là n'est à l'abri de complètement se faire rincer, voilà.
Et tu parlais de notre jeu, bah justement, faisons un point, parce que nous avons un nouveau leader. C'est Fabien Denoyant qui a joué Sam Burns. Rendez-vous compte, il a failli décrocher la parade.
Ça, bravo, voilà.
Il a 21 magnifique. Points désormais, Fabien Denoyant. Simon Dutin perd un point parce qu'il a joué Sepp Straka, pas passé le cut.
Ah, je le sentais, Straka, le sentais devant Schaeffler, devant Rory, devant
Brickman. Maxime Abolin perd un point également, notre producteur. Il a 17 points, il avait joué Justin Thomas qui n'a pas passé le cut. Je perds un point également, j'ai 16 points parce que j'avais joué Joachim Niemann, encore le flair. Médéric Coquart, bravo à lui. Il a joué Yon Ram, forcément c'est Callaway, qui a terminé 7ème, donc il a marqué quelques points. Martin Coulon, Scotty Scheffler, tu as marqué quelques points également, tu as 13 points désormais. Ramucho Artola, qui avait joué Rory McIlroy, tu as pris un petit point, il a fait un top 20. Notre ami Rory McIlroy, c'est 2 points, pardonne-moi, tu as 12 désormais. Et puis on embrasse Paul Vexio, qui a donc la cuillère de bois, c'est notre réalisateur. 10 points pour lui, il avait joué Bryson de Chambeau qui n'a pas passé le cut. On rejouera et Simon Dutin ne sera plus le dernier à parler. Le dernier à voter, parce qu'il est deuxième désormais, notre ami Simon Dutin. Merci beaucoup la Dream Team d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs. Évidemment, vous pouvez aller sur notre compte Instagram pour aimer nos petites vidéos, nos conseils. Sachez qu'on va se retrouver vendredi prochain, dans quelques jours, avec un invité exceptionnel. C'est Frédéric Lacroix, notre Français qui a participé à l'US Open pour la première fois de sa carrière. Les carnages au golf, comme cet US Open. Est-ce que vous aimez ça? On lui posera également la question. D'ici là, bon golf à tous. Salut.
Le Practice RMC. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est Gold.
RMC Gold. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bien le bonjour, content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de discussion et de débat en direct sur RMC, la radio et la télé, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour mon cher Olivier Truchot et bon anniversaire.
Merci à toi, bonjour à tous.
Bon anniversaire.
Merci.
Bon anniversaire.
Il y a un âge, en fait, t'as envie de passer vite tes anniversaires, tu vas passer à autre chose. Mais merci pour tous les messages que je reçois également de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Silvio Berlusconi, il a fait de très beaux anniversaires. anniversaire jusqu'à très âgé.
Et
vois,
Trump,
donc,
son anniversaire.
Bouga Bouga.
Non, j'ai pas fait de soirée Bouga Bouga ce week-end.
Qui est là aujourd'hui? Vous venez d'entendre leur voix. Éléonore Lemaire, chanteuse lyrique et professeur d'aïkido, nous accompagne.
Bonjour.
Charles Consigny, l'avocat.
Bonjour à tous.
Et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Bonjour. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les
JO? On est en radio, Jean-Loup.
On va dire bonjour.
Il n'a pas envie de dire bonjour, Jean-Loup.
Non, il a fait un signe de la tête, mais ça marche pas à la radio.
Oui, non, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de cuire telle Jeanne d'Arc à cause du projecteur qui me... Tu vois, je vais faire une Jeanne d'Arc.
T'as pas l'habitude des spotlights, quoi. Voilà. Il y a un truc.
Il découvre. Les amis, on a un rendez-vous exceptionnel à vous donner ce vendredi. Parce que vendredi, c'est le point final de la tournée des 20 ans. On s'est baladé un peu partout en France. Et vendredi, on termine à Paris, dans un lieu qui sera un lieu prestigieux, représentant le peuple, on n'en dit pas plus.
Non, ça sera entre 9h et 12h. On va installer notre beau chapiteau qui a sillonné la France cette saison pour marquer cette fin de saison exceptionnelle. Et alors là, on a du lourd, hein, je peux vous dire, par rapport aux invités politiques. Il y aura bien sûr toutes nos grandes gueules qui seront là, hein, beaucoup de grandes gueules, face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon notamment. Et le casting n'est pas terminé. Peut-être que le casting pourrait nous conduire vers l'Élysée.
On attend des confirmations, bien évidemment. Mais si vous voulez assister à cette émission exceptionnelle vendredi avec quasiment la majorité des GG et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez bien qu'on a un filtre et il faut passer par une petite adresse mail public@rmc.fr public@rmc.fr et on se retrouvera vendredi en direct. On vous donnera tous les détails au fil de la semaine. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Nous recevons la porte-parole du gouvernement à 11h. On parlera de Nicolas Sarkozy qui perd sa légion d'honneur, justifiée ou exagérée après sa condamnation. On évoquera aussi cette vidéo virale depuis un mois sur les réseaux sociaux à Rennes. Les policiers ont topé un guetteur de point de deal de 10 ans. Vous m'avez bien entendu.
Ça n'a rien de nouveau.
On en parlera tout à l'heure avec vous. Premier sujet de discussion, l'inquiétude face à ce qui se passe entre l'Iran et Israël. C'est une guerre qui inquiète le monde entier. Israël fait tout pour que l'Iran n'ait pas la bombe nucléaire. Cette guerre vous inquiète-t-elle? C'est au 32-16 que ça se passe.
Ce matin, l'ambassadeur d'Israël en France sur RMC expliquait que l'opération pouvait encore durer quelques jours. Et d'ailleurs, ce matin même, l'armée israélienne déclarait que de nouveaux missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Israël avaient été détectés. Depuis vendredi, au moins 224 morts ont été recensés en Iran contre une dizaine de personnes tuées en Israël. Le président américain Donald Trump appelle les deux pays à trouver un accord. Trump qui s'est opposé d'ailleurs à un pont israélien visant à éliminer le guide suprême iranien. Donc effectivement, on est dans une guerre déclaré par Israël contre l'Iran, Israël qui veut se débarrasser du nucléaire iranien. Donald Trump a même proposé une médiation, celle de Vladimir Poutine. Assez surprenante, cette médiation. D'ailleurs, elle a été rejetée notamment par Emmanuel Macron. La France se range du côté d'Israël. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, expliquait que la France était prête à contribuer à la protection d'Israël, car Téhéran est au seuil de pouvoir frapper Israël, mais aussi de frapper potentiellement notre territoire, l'Iran étant une menace, l'Iran nucléaire, une menace pour le monde. Alors, est-ce que vous êtes inquiet de ce conflit, qui peut aussi avoir des répercussions économiques, notamment sur le prix du baril du pétrole, même si pour le moment, les choses sont relativement maîtrisées, mais êtes-vous inquiet, mes chers grandes
gueules? C'est au 32-16 que ça se passe. Vous écoutiez aussi le président de la République, Emmanuel Macron, sur ce conflit.
J'ai dit vendredi très clairement que la France était préoccupée par la prolifération nucléaire et les activités nucléaires en cours de l'Iran, et que celle-ci constituait une menace très claire pour toute la région et même pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai cautionné quoi que ce soit. Nous appelons au plus vite possible à un retour des discussions.
Voilà, le président de la République qui s'exprime depuis le Groenland, et maintenant il va partir au Canada pour le G7. Alors est-ce qu'on est inquiet que le conflit ne dégénère, Jean-Loup Bonamy?
Non, mais c'est la phrase de notre ami Olivier qui m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire, si je répète la phrase...
Fait rire, c'est bien.
Non, mais c'était pas toi. C'était le contenu de la phrase. Donc, si je répète, Donald Trump a proposé une médiation, la médiation de Vladimir Poutine entre l'Iran et Israël. Et après, tu as rajouté, mais Emmanuel Macron l'a rejeté. Mais je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron vient faire là-dedans, parce que si quelqu'un doit rejeter cette médiation, c'est soit Donald Trump qui l'a d'abord proposé, soit Vladimir Poutine qu'on propose comme médiateur, soit les Iraniens ou les Israéliens qui sont actuellement en guerre. Mais Emmanuel Macron n'a rien à voir là-dedans, et le problème de la France, c'est que depuis un certain temps, et ça s'est accéléré avec la présidence Macron depuis 2017, la France n'est absolument plus audible et ne pèse pour rien dans ce dossier. Donc ça, c'est la première chose que ça m'évoque. On a une diplomatie française qui est totalement discréditée, on a été chassé d'Afrique, on est ridiculisé, et Emmanuel Macron croit encore qu'il est en mesure de valider ou de repousser, de faire échouer un deal proposé par le président des États-Unis, que ce soit sur Iran, Israël ou sur l'Ukraine. Or, notre voix, et c'est d'ailleurs valable pour les pays européens de manière générale, notre voix actuellement ne compte plus du tout. Et encore une fois, c'est l'un des énièmes dossiers qui se réglera sans nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est très triste qu'au pays du général de Gaulle, on en soit arrivé là. J'espère qu'on va remonter la pente, mais pour l'instant, l'état actuel de la France dans le monde, c'est ça. Et la deuxième remarque, j'y pense, puisque tu parlais de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que moi, je ne prends pas parti dans le conflit Iran-Israël, voilà, les Israéliens ont leurs raisons, etc., mais je ne vois pas la différence entre Russie-Ukraine. C'est-à-dire que Israël, qu'on a le droit de soutenir, moi je comprends qu'on puisse soutenir Israël sur ce dossier, mais Israël fait exactement la même chose et se comporte avec l'Iran exactement de la même manière que la Russie en Ukraine. J'avais entendu à partir de 2022...
Israël n'a pas envahi l'Iran.
J'avais entendu qu'on condamnait la guerre l'Iran. D'agression. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. Là, c'est très clairement une guerre d'agression. Voilà, alors... Soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du deux poids, deux mesures.
Éléonore, inquiète ?
Alors, oui. C'est-à-dire que là, hier, quand on a... Enfin, voilà, on était devant la télé et tout à coup, il y avait toutes les émissions qui débriefaient. Par exemple, je regardais sur France 5, c'est politique, il y avait plein de gens invités qui avaient de tous bords, des spécialistes de tous bords, et on voyait déjà, eux, entre eux, la complexité du dossier, le fait justement que l'Europe était complètement démunie, même je pense que idéologiquement, je ne sais même pas comment en tant qu'Européen on arrive à savoir de quel côté, comme tu disais, c'est-à-dire c'est tellement...
Quel côté tu te situes ?
Ouais, c'est-à-dire que...
Du côté des démocraties par rapport
à... On dirait le sketch des inconnus sur le Liban.
En fait, le truc, c'est que pour moi, l'Iran, c'est, ils se prennent... Enfin, pour moi, je pense à la population iranienne qui s'en prend plein la tronche par leur régime, déjà, et après, qui s'en prend plein la tronche par Israël. Ça, je comprends tout à fait qu'Israël ait peur du nucléaire iranien. Nous aussi, on en a sans doute peur, parce que Téhéran a toujours... quand même dit que l'Occident c'était le mal, il y a un espèce de matraquage mental comme ça contre Israël, tout ça. Mais je me dis, voilà, on était en grand soutien des femmes iraniennes et tout, et puis bah, c'est celles qui se font tuer là, dans les attaques. Donc,
elles ne sont pas visées quand même.
Non, elles ne sont pas visées,
oui,
mais elles meurent quand même. Donc c'est, en fait, du coup, je suis assez... Et c'est la violence, c'est-à-dire, j'entendais hier justement un des invités de ce fameux plateau qui disait, c'est parce qu'en fait, c'est la paix par la guerre. Cette espèce de monde maintenant où on est, où en fait il faut faire la guerre pour avoir la paix, alors qu'on avait une utopie, nous les Européens, qui était l'utopie inverse. Et c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, on voit que l'Europe, la belle utopie européenne, a du plomb dans l'aile, qu'on est minoritaire avec nos bons sentiments et nos grandes valeurs universelles, et qu'en fait le monde est d'une violence inouïe. Il y avait des accords sur le nucléaire iranien, on en pensait ce qu'on en voulait, mais à partir du moment où l'Amérique se retire, enfin, il y a un cynisme derrière. Est-ce que c'est parce qu'ils attendent une décision de Trump pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que l'Europe, on est complètement à l'ouest sur ce dossier.
Charles.
C'est intéressant cette histoire d'Europe à l'ouest, mais d'abord, moi, je trouve que ça montre la supériorité militaire d'Israël totale sur l'Iran. C'est-à-dire que les Iraniens, ils font des déclarations martiales, ils ont des chefs d'armée, des ayatollahs qui font peur, mais en fait, ils sont malheureusement pour eux complètement incapables de répliquer de manière forte à une attaque comme celle-là, puisqu'en fait, ils envoient des missiles qui, pour la plupart, n'atteignent pas le sol israélien. J'ai cru comprendre que le dôme de fer parvenait à interrompre 90% des missiles dans leur course. C'est quand même colossal. Et ils se font assassiné leur chef des armées, après d'ailleurs que Trump avait fait à peu près la même chose avec plus ou moins le prédécesseur de cet homme,
Soleimani,
qui avait été tué par l'armée américaine. Celui-là est tué par l'armée israélienne, et donc ils sont à la fois en incapacité de défendre leurs hauts dignitaires et en incapacité de répliquer. Donc ça montre la grande force des Israéliens. Moi, je ne suis pas suffisamment capé pour savoir si le fameux accord de Barack Obama que Trump avait beaucoup dénoncé sur le nucléaire iranien était une catastrophe ou pas. Est-ce qu'il était suffisant ou pas pour dénucléariser les Iraniens ? Manifestement, ils ont quand même une volonté assez farouche d'acquérir la bombe nucléaire. Le wokisme généralisé va jusqu'à considérer que, après tout, pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas, puisque les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne,
on menace personne
de
destruction.
Oui, mais tu as vu ce que dit Jean-Loup. Jean-Loup dit c'est une agression, c'est une guerre d'agression. C'est-à-dire Israël a agressé
c'est
l'Iran.
Pas forcément mal. C'est-à-dire Louis XIV aussi faisait une guerre d'agression.
Non, mais si tu dis ça, ça veut dire que voilà, l'Iran est dans sa logique de réplique et de se défendre.
Chacun a sa logique.
C'est ce qu'ils ont fait.
L'Iran peut se défendre.
Israël est en train de dire on vous rend service.
Est-ce que le monde serait meilleur si l'Iran avait le nucléaire ? Je crois qu'on est quand même capables tous d'être d'accord sur la réponse. On préférerait qu'un régime comme le régime iranien actuel n'ait pas la bombe nucléaire, puisque c'est un régime qui menace
Olivier
Truchot sur ce
point précis. Je vais répondre tout à fait. Tu as raison en théorie. Le seul problème, c'est que les Iraniens sont des gens qui nous ont observé. Ils ont vu qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Muammar Kadhafi et qui avait lancé un projet pour avoir la bombe nucléaire. Que Kadhafi a finalement, pour plaire aux Occidentaux et se réconcilier avec eux, abandonné la bombe nucléaire. Donc du coup, il a dénoncé le terrorisme international, il nous a livré des informations précieuses sur un scientifique pakistanais, le professeur Khan, qui faisait du trafic de matières nucléaires. Il a abandonné son propre projet, donc la Libye n'a pas eu l'arme nucléaire. Donc on l'a reçu, il est venu planter sa tente à l'Élysée chez Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qui s'est passé 4 ans après, quand il y a eu une révolution chez lui ? On a soutenu les révolutionnaires, on les a armés, on a bombardé l'armée de Kadhafi, et finalement il a perdu le pouvoir et il est mort lynché, ce qui a été rendu possible uniquement par l'aviation française qui avait soutenu les rebelles. Donc finalement, Kadhafi n'a pas vraiment été très récompensé d'avoir abandonné la bombe atomique. Les Iraniens et d'autres pays, la Corée du Nord aussi, ont vu ça. Ils se sont dit, les Occidentaux ne sont pas fiables. Si Kadhafi avait eu la bombe atomique, jamais les Français n'auraient osé le bombarder. Oui. Il serait toujours au pouvoir.
Je comprends bien que les gardiens de la Révolution, pour eux, il est essentiel pour se sauver et sauver leur régime, d'avoir la bombe nucléaire.
Mais parce que nous ne sommes pas fiables.
Ça sera plus compliqué de les déloger. Oui. Ça sera plus compliqué de les déloger. L'idéal, ce serait que les Iraniens se révoltent et renversent ce régime sanguinaire. Malheureusement, ils ont essayé plusieurs fois. Ça se termine par une répression aveugle et insupportable, où on pend des femmes tout simplement parce qu'elles se sont rébellées. Ils continuent d'ailleurs. Hein, pendaison, on coupe les mains même maintenant aussi en Iran.
Parce que
le monde, il n'y a pas les gens.
Bien sûr, mais les méchants de les Occidentaux.
Néanmoins, aujourd'hui, il est nécessaire, j'ai l'impression qu'Israël fait un peu le sale boulot pour tout le monde. Est nécessaire quand même d'éviter que l'Iran.
Mais l'Iran veut la bombe. Moi, je suis contre.
Soit par un accord, soit par la guerre.
Moi, je suis contre le fait qu'il y ait une bombe iranienne parce que ça ferait une prolifération. Les autres pays de la région, la Turquie, les Émirats, l'Égypte, voudraient alors aussi la bombe et ça serait l'escalade. Donc, moi, je suis contre la bombe iranienne, mais. Il faut reconnaître que s'ils veulent la bombe, c'est parce qu'ils voient bien que les Occidentaux ne sont pas fiables, ne tiennent même pas leurs paroles, n'arrêtent pas de donner des leçons de démocratie. Ils ont vu ce qui est arrivé avec Saddam Hussein, qui était leur voisin, la catastrophe irakienne. Ils ont vu ce qui est arrivé en Libye.
L'Iran et l'Irak ont été en guerre pendant
longtemps
aussi. Tout à
fait. Ils ont vu que François Hollande et Angela Merkel n'avaient pas tenu les engagements qu'ils avaient faits vis-à-vis de Vladimir Poutine sur la question ukrainienne. Et ça, c'est François Hollande lui-même qui a dit, ah oui, moi, j'ai pas tenu les engagements que j'avais pris. Donc les Iraniens, ils voient ça, excuse-moi, ils sont un peu méfiants alors, vis-à-vis des Occidentaux.
T'as une drôle de tournure quand même d'esprit. Non mais attends, moi j'écoute. Mais t'as une drôle de tournure par rapport à l'Iran d'un coup qui apparaît pour toi comme une espèce de pays modèle.
Pas du tout.
Non, c'est pas du tout ça.
Non, mais c'est complètement corrompu et on voit bien que ça qui finance.
Non mais à aucun moment t'as dit l'Iran pendant 30 ans a financé le terrorisme, a frappé la France aussi via des organisations terroristes. Mais à aucun moment tu l'as rappelé, Jean-Louis.
J'essaye de me mettre dans la tête des dirigeants iraniens pour comprendre pourquoi ils veulent tant cette bombe au point d'imposer autant de sacrifices à leur pays.
Il est pas du tout sûr que même avec un changement de régime, un régime qui nous soit plus favorable, c'est-à-dire qui pour nous correspondent plus à ce qu'on imagine au niveau des droits de l'homme et autres. Ça veut, enfin, vu la puissance que c'est, en l'Iran, l'Iran c'est un grand pays avec des gens très cultivés, tout ça. Il y a peut-être aucune raison que même un régime pacifiste veuille pas la guerre, la bombe nucléaire.
Bah oui, il y a surtout pas de, parce qu'il vient de se passer là.
L'Iran, enfin, depuis que les Mollahs sont arrivés au pouvoir, l'Iran est entré en guerre contre l'Irak. L'Iran a financé des milices qui ont détruit le Liban. L'Iran a financé des groupes terroristes qui ont frappé la France. Je veux dire, à aucun moment, Jean-Loup, tu nous as dit ça en disant, alors peut-être qu'Israël a effectivement est allé trop loin dans son opération, mais est en train de dire aux Occidentaux, les gars, ça fait 40 ans qu'il y a un pays qui fait chier le monde entier, des dirigeants qui font chier le monde entier, mais on est en train de vous rendre service, on est en train de faire le sale boulot par rapport à un régime corrompu et financeur du terrorisme.
C'est ce qu'ils ont dit sur le Hamas aussi. Hein.
Par ailleurs, et qui menace toute la région. Je te rappelle qu'en Irak, l'Iran, parce que l'Iran c'est des chiites, a joué un grand rôle dans la destruction de Daesh, parce que Daesh c'est des sunnites, c'est leur ennemi. Il faut aussi penser à ça.
Une coalition avec. Bon, bah écoutez, la discussion.
L'Iran qui a des otages français. L'Iran qui a des otages français.
Les grandes
gueules
ont lancé la discussion et on vous attend au 32-16. Est-ce que cette guerre Israël-Iran vous inquiète? Ça peut avoir des répercussions en plus, effectivement, aussi, comme le disait Léonore tout à l'heure, sur l'énergie, sur le carburant, de nouveau. Ou est-ce qu'Israël fait le boulot pour nous, les Occidentaux? 32-16 pour en parler avec les GG, il est 9h20.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC.